RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission Méliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Bon, au mois de mai, en général, ça va bien. C'est un des mois où on se sent le mieux, en général. D'abord parce qu'il fait que trois lettres, donc c'est plus quoi dire. C'est pas comme décembre, novembre, et avant le Brumaire, avant je sais plus comment, les noms à l'époque de Napoléon, il avait tout changé, ce con. C'était le code napoléonien, c'était plus le code, comment on appelle, le code romain. Ouais. Alors là, j'ai un livre, c'est les poètes du Sénégal. C'est pas mal, j'aime bien. Et il y a un certain... alors, je vous donne le nom, mais il est un petit peu long, mais c'est pas grave. Ned Kumba Edmonge Diakaté. Voilà, il a un sacré nom, le mec. Et alors, son poème s'appelle « Frère blanc, souviens-toi ». Souviens-toi, frère blanc, hier, tes ancêtres au col raide, étriqués, arrogants, qui tuèrent sans frémir, écrasèrent nos moissons, souillèrent nos fières compagnes. Souviens-toi, hier, mes ancêtres ligotés, déportés, fouettés. Comprends le message du blues. Envoie la révolte, entends la révolte du mulâtre. Ah, justice, pour sa mère sacrifiée. Souviens-toi, frère blanc, les tranchées de Verdun, la gourde commune atteignant nos gosiers en feu, nos deux corps embrassés par l'éternité de la mort. Frère blanc, c'est encore le noir aujourd'hui, exploité, affamé, amoindri, toujours le même frère qui ne tient qu'à gagner dans le mépris de tes ruches, son pain dur à la pointe du balai, d'un balai de brindilles. Ce fut écrit en 1980, figurez-vous. Alors bon, à l'époque, bon, alors je ne sais pas de quel. S'il était du Sénégal, il y avait peut-être encore une présence française, mais qui n'était pas quand même une présence d'esclavage, c'était une, on va dire une colonie, voilà. Ce n'était pas une colonie de vacances, hein. Ah non, non, ça risque pas. Hein. Alors, un autre Sénégalais, Sada Wende Niaye. Bon, excusez-moi, je pourrais vous l'appeler, parce que vous sauriez peut-être mieux le lire que moi, mais bon. J'ai vu passer une femme noire à mes sœurs qui ont perdu leur visage. C'est adressé donc à ses sœurs. Ce fut écrit en 1978. Dans le crépuscule rampant sur la peau du jour, en agonie, j'ai vu une femme, noire, comme la gencive de l'aimé. Elle passait, en sillage, une douce senteur d'encens, traîne aérienne, que les hommes de la place suivaient. Au rythme giratoire de leurs yeux cristallins, elle passait. Le soleil, pour sa cour, enlaçait d'un col doré, son col rythmé par des colliers sans perles. Et la jeune lune s'ébattait en riant, dans la mare ombragée de ses grands yeux noirs. Elle passait, noire sans phare, noire et fière, et noire. Dans le ruissellement laiteux de son voile superbe, où se glissait la fine brise du soir, comme des perles pleines sur un tapis de satin, elle passait. Voilà. Et je crois qu'elle passe toujours, mais c'est pas la même. Bon, voilà. Alors, je vais... Ah bah tiens, j'allais oublier mon copain, Victor Hugo. Oh, il m'aurait engueulé, hein. Ça, je peux vous le dire, hein. Il se gêne pas pour m'engueuler, hein, quand je passe par un de ses poèmes pendant mon émission, hein. Alors ça s'appelle « Au souvenir, printemps, aurore ». Au souvenir, printemps, aurore, doux rayon triste et réchauffant, lorsqu'elle était petite encore, que sa sœur était tout enfant. Connaissez-vous sur la colline qui joint Montlignon à Saint-Leu, une terrasse qui s'incline entre un bois sombre et le ciel bleu? C'est là que nous vivions, pénètre mon cœur dans ce passé charmant. Je l'entendais sous ma fenêtre jouer le matin doucement. Elle courait dans la rosée, sans bruit, de peur de m'éveiller. Moi, je n'ouvrais pas ma croisée, de peur de la faire envoler. Ses frères riaient, aube pure. Tout chantait sous ses frais berceaux. ma famille avec la nature, mes enfants avec les oiseaux. Je toussais, on devenait brave. Elle montait un petit pas et me disait d'un air très grave, « J'ai laissé les enfants en bas. » Qu'elle fût bien ou mal coiffée, que mon cœur fût triste ou joyeux, je l'admirais. C'était ma fée et le doux astre de mes yeux. Nous jouons toute la journée, au jeu charmant, cher entretien. Le soir, comme elle était l'aînée, elle me disait, « Père, viens, nous allons t'apporter ta chaise. Conte-nous une histoire, dis. » Et je voyais rayonner d'aise tous ces regards du paradis. Alors, prodiguant des carnages, j'inventais un conte profond, dont je trouvais les personnages parmi les ombres du plafond. Toujours, ces quatre douces têtes riaient, comme à cet âge on rit, de voir d'affreux géants très bêtes, vaincus par des nains pleins d'esprit. J'étais Arioste et l'Homère, d'un poème éclos, d'un seul jet, pendant que je parlais, leur mère les regardait rire et songeait. Les aïeux, qui disaient dans l'ombre, sur eux parfois levaient les yeux, et moi, par la fenêtre sombre, j'entrevoyais un coin des cieux. C'était écrit à Villequier, le 4 septembre 1846. Voilà, c'est beau, hein. Faut dire qu'il a vachement écrit, lui, hein. Il n'a pas fait que des poèmes, hein. Regardez, Les Misérables. J'ai une série de bouquins sur lui dans la même collection. Il y a tous ces grands romans qu'il avait faits. J'en ai lu qu'un seul, pour le moment, c'est Les Misérables, mais enfin, je me mette à lire les autres, quand même. Ouais. Et avant que je sois aussi bon que lui, quand même. Hein. Parce qu'après, j'aurais plus le temps de dire, hein, si je suis meilleur que lui. Hein. Je crois que ça ne sera jamais. Je ne pourrai jamais être aussi bon que lui. Alors, Claude Mercutio. Il est né de tango inconnu. Et alors, il a écrit un poème, alors, qui s'appelle justement « Né de tango inconnu », en hommage à Jean-Roger Cossimon et à Léo Ferré. Vous voyez, il est un peu comme moi, il aimait bien ces deux personnages-là. « Je suis né de tango inconnu, ma mère s'est fait comparsité. » Alors, attendez, « comparsité », voilà, bon, dans un quelconque bois à tango, un mikado d'Aubervilliers, l'Eldorado du samedi soir. Ça m'a donné des pas de papa. Tout enfant, je ne comprenais pas. Un à un, ils sont tous partis. Adios, muchachos. Compareros de velada. Oh, me voilà que je parle en espagnol maintenant, ou en mexicain, comme vous voulez. Maman m'a quitté à son tour, mais ils sont seuls. Vieil orphelin privé du tout état civil. Plus de nom, ni de numéro. Il y a qu'échappe aux statistiques. Tout juste un sigle mordoré, entortillé de fines barbelées. L'étoile jaune de mes cauchemars et mes souvenirs furgérisés. Bon, alors là, on a compris l'époque. Hein. Bon. Une longue dérive artistique, au succès remis à demain, au naufrage de mes amours, cœur d'artichaut privé de ses feuilles, au désert blanc de mes draps vides, au regard lourd, à la ride sèche, à mon corps fourbu qui rechigne, aux lendemains hypothétiques, les tangos de Carlos Gardel me font venir les larmes aux yeux. Quand je revois ton sourire lasse, maman chérie, qui me donna tout superflu que je n'avais pas, suis-je déjà mort sans le savoir? Canard sans tête sur sa lancée, et en derrière-cour frénétique, je suis né de tango inconnu. Mais tu avais raison, maman. C'est si beau, la compartissa. Compartissa. Compartissata, pardon, excusez-moi. Alors, ça fut écrit en 1995. Voilà. Hein. C'est pas mal quand même. Alors, ça serait bien qu'on passe un petit peu de musique. Et alors, c'était notre ami. West Side Story. Wow. Ça, c'est une anthologie incroyable, West Side Story. C'était bon. Et ça dure longtemps, mais là, c'est des coupures. Hein. C'est des morceaux. Qui ont été séparés du contexte général.
I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. And I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing. Feel like running and dancing for joy. For I'm loved by a pretty, wonderful boy.
Have you met my good friend Maria? The craziest girl on the block.
I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me. I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine. And so pretty, Miss America can just resign. See the pretty girl in that mirror there.
What mirror? Where?
Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning,
I feel stunning
and entrancing.
And entrancing.
Feel like running,
feel like
and dancing
running
for joy.
Voilà. Alors, c'est pas le meilleur morceau de cet opéra, parce que c'est presque un opéra. Hein. Mais bon, c'est bien de petit à petit de le tout. Alors, j'allais oublier un personnage, et il n'aurait pas été content, parce que je passais Victor Hugo, je n'aurais pas passé lui. Je pense qu'il m'aurait engueulé. Bon, alors, je vais me rattraper. Mais, ben, c'est Jacques Prévert, bien sûr. C'est vrai que Jacques Prévert, il est jaloux de Victor Hugo, figurez-vous. Ouais. Bon, je le comprends. Hein. Je le comprends. C'est comme moi, je suis jaloux de Victor Hugo et de Jacques Prévert. Alors, oui, et je me comprends. Bon. Alors, Jacques Prévert, il est dans son fameux livre Paroles, qui était certainement le plus connu et le plus souvent réédité. Parce que j'ai une version qui date de 1949, et là, j'ai une version qui est très récente. C'était pour pas abîmer la version de 1949 que je l'ai achetée. Ben oui, parce que je me suis dit quand même, hein, à force de prendre un vieux bouquin, on l'abîme à chaque fois. Tandis que là, bon, celui-là, si je l'abîme, c'est pas grave. Hein. Il n'a pas de valeur. Enfin, il a aussi la valeur de ce qu'il est, lui, quoi. Hein. Au lieu de 2004, oui. Il y a quand même une sacrée différence avec 1949. Hein. L'ordre nouveau. Alors, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment du côté de l'extrême droite. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Je préfère vous prévenir à l'avance, quand même. Hein. Le soleil vit sur le sol. Litre de vin rouge brisé. Une maison, comme un ivrogne, sur le pavé s'est écroulée. Et sous son porche, encore debout, une jeune fille est allongée. Un homme à genoux près d'elle est en train de l'achever dans la plaie où remue le fer. Le cœur ne cesse de saigner. Et l'homme pousse un cri de guerre, comme un absurde cri de paon. Et son cri se perd dans la nuit, hors la vie, hors du temps. Et l'homme au visage de poussière, l'homme perdu et abîmé, se redresse et crie « Halt, Hitler !» Vous voyez, on était quand même dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais pas la même époque. Hein. D'une voix désespérée, en face de lui, dans les débris, une boutique calcinée, le portrait d'un vieillard blême le regarde avec bonté. Sur sa manche, des étoiles brillent, d'autres aussi sur son képi. Comme des étoiles brillent à Noël, sur les sapins pour les petits. Et l'homme, des sections d'assaut, devant ce merveilleux chrono, soudain se retrouve en famille, au cœur même de l'ordre nouveau, et remet son poignard dans sa gaine, et s'en va tout droit devant lui, automate de l'Europe nouvelle, détraqué par le mal du pays. Adieu, adieu, Lily Marlène, et son pas et son chant s'éloignent dans la nuit. Et le portrait du vieillard blême, au milieu des décombres, reste seul et sourit, tranquille dans la pénombre, sénile et sûr de lui. Wow, c'est dur. Alors bon, c'est une organisation paramilitaire qui a été créée en 1920 par Ernst Röhm, les SA, les fameuses sections d'assaut, je crois. Hein, vous voyez. Voilà, donc alors je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a écrit, il ne le dit pas, non. Il ne le dit pas. Mais bon, ça, vous voyez, c'est... Alors, je vous parlais que ce n'était pas l'extrême droite, mais c'était. Ce n'est pas l'extrême droite, c'était l'extrême droite. C'est pas pareil. Hein. Pour moi, qui suis né en 1945, je peux vous en parler. Hein. J'étais bébé. Il nous reste encore du temps ? Ouais ! Oh, génial ! Alors, je vais pouvoir vous lire un de mes poèmes, quand même. Oh, on ne va pas déconner, quand même. Hein. Alors, voilà, alors ça fut écrit en 2018, à 20h05, le 27 janvier. C'était mon 1670e poème. Oh. Et alors, qu'est-ce que la contrepétrie ? Alors là, il faudra déjà demander à Patou, hein, parce que alors, lui, c'est un spécialiste, hein, lui, c'est le roi de la contrepétrie. Hein. Sinon, un paix qui est contre ceux qui veulent s'en sortir. Ouais. Alors, on... Pour bien analyser le problème, il est bon d'en connaître la cause et le savoir de ce que se passe là où les autres paient restent bloqués à cause du premier. Hein ? Certains savants, mieux que les autres, disent que c'est à cause du premier qui, plus vigoureux, arrive à retenir les autres, car il aime pouvoir le faire avant les autres. Voilà. Mais ceci n'est pas vérifiable et souvent repoussé par des chercheurs et des fouilles merde. Oui. La troisième hypothèse semble plus crédible par les scientifiques de l'anneau. En analysant la sortie de chaque paix, mais juste ceux après le premier, puisque ce sont ceux-ci même qui nous intéressent. Un labarantin en stage d'un mandat donc au deuxième. Mais tu as failloté. Toi-même, répondit le paix qui était vexé. Le troisième, ayant entendu la question et par voie de conséquence, la réponse... se prépare à la question du questionneur. « Et toi ?» demanda le monsieur en blouse blanche. « Moi, » répondit le troisième, « c'était juste un yaourt périmé. » Et c'est là que le stagiaire voulut vérifier les dires du troisième, qu'il comprit enfin le principe de la fermentation des tuyaux. Et le premier paix comprit qu'il lui fallait laisser les autres paix sortir de temps en temps, afin d'éviter ce rat de marée qui anéantisse toutes les idées du pouvoir. Il créa le Congrès mondial des paix. Pas très loin de la grande ours et des chiens de chasse, afin que ceux-ci puissent filtrer les invités venant de toute la planète, d'où le congrès planétaire des paix. Voilà. Et alors, le congrès des paix, je vais vous le lire, parce que je me suis renseigné, puis j'étais au congrès des paix, hein, j'étais le dimanche 26 mai en 2002, et je me suis assis à côté des autres. Alors, un rat péteur lâcha un vent dans l'air du temps. Léger, il prit le large en rejoignant la Voie lactée, où se réunissaient chaque été les paix de la Terre pour le congrès des paix d'oiseaux parleurs. Ouais. Alors moi, je suis pas un oiseau parleur, mais bon, comme je suis un poète, ils m'ont invité, c'est normal, je parle. Hein. La preuve, c'est que je vous parle en ce moment. Bon. Certains, plutôt lourds de conséquences, arrivaient en dernier, alourdis par cette poussière d'étoiles qui se déposait sur leurs ailes. Les paix légers et délicats s'installaient au premier rang. Ben oui, ils arrivaient les premiers. C'était des inséparables de Madagascar qui, arrivant toujours par deux, se rangeaient dans la tribune pour mieux en parler. Le secrétariat du congrès des oiseaux parleurs annonçait un léger retard du paix d'un éléphant, rose, muet, qui n'arrivait toujours pas à décoller. Il fallut 1000 paix de pie pour l'aider à s'envoler. Enfin, le congrès pouvait commencer. Le président énorme de paix de dindon, débordant de gaz, lança le traditionnel bonjour qui coupa, le souffle de l'assemblée. Le trésorier, à un peu près, observait le premier rang pour découvrir le skieur. « Savez-vous, monsieur, qu'un paix ne reskille pas ?» C'est bien connu, ça. Ben oui. Par contre, il peut se faire discret, voire insoutenable, mais toujours bien présent. La Voie lactée se sentait barbouillée par ces millions de paix en congrès. Elle les rassemblait en un seul coup pour s'en débarrasser. Elle expulsa avec force vers la terre, qu'en fut malade tout le restant de l'été. Dans cet instant, les paix restent autour de la terre en ayant soin de reboucher le trou de l'ozone avec des contrepétries silencieuses. Voilà. Et c'est vrai, hein, ça existait, ça. Alors, normalement, bon, c'est pas tous les ans, parce que les paix de la terre, il y en a, ils veulent pas aller au congrès. Ouais, ils préfèrent rester sur terre, souvent cachés dans les cabinets. Ouais, ils sont pas toujours... Et puis, vous savez, c'est pas facile de monter là-haut. Hein. Ah non, mais je peux vous le dire. Hein. Moi, j'ai des paix qui se mettaient à ras de terre. Hein. Tout ça pourrait être un peu oublié. Hein. Mais ils n'avaient pas compris qu'il y avait l'odeur. Hein. Il y avait peut-être plus le bruit, mais il y avait l'odeur. Là, l'odeur, elle remontait à la surface. Elle grimpait jusqu'au plafond et elle redescendait, l'odeur. Hein. Alors, heureusement qu'il y avait ces fameuses petites bombes, là, vous savez, là, avec des parfums à la con. Là. Alors là, vous avez intérêt à en mettre. Hein. Alors, choisissez bien vos parfums. Prenez pas des parfums à l'odeur de merde. Hein, tantôt. Bon. Et alors, sur ce, il me reste encore combien ? 9 minutes de bonheur avec vous et avec toi, Jacqueline. Oh ! Allez, Jean-Claude Demoine. Les morts ordinaires. Alors, la très vieille dame. Voilà. Alors, il annonce. Ça, il fait ça à sa maman. Et lui, il a 91 ans, là, actuellement. Alors, sa maman, je ne dis pas d'avoir au moins 125 ans, hein, au moins. La très vieille dame, au bout du quai, qu'attendait-elle ? Les TGV passaient, bien trop pressés. Elle ne pouvait monter. Elle voyait bien des trains plus lents, des trains normaux, des trains du temps où les blancs étaient moins stressés. Des électriques, des au charbon, à la vapeur, des trains en bois. Elle ne voulait monter, c'était son choix. Hein. Elle avait pris son parapluie, son beau manteau et son chapeau, sa valise d'un ancien âge. Elle allait en voyage, c'est certain. Elle savait, le voyage long, long, très long, interminable. Pourquoi s'envoler au premier appel ? Je prendrai le train suivant. Elle se nourrissait de coups de sifflet du chef de gare. Ça lui suffisait avec un bol de lait. Longtemps, l'autant, des saisons, encore des saisons, de plus en plus diaphanes. On la vit, au bout du quai. Puis un matin, son parapluie, son beau menton et son chapeau et sa valise d'un ancien âge. Seule, désorientée, au bout du quai, disparue, la vieille dame, par vol de nuit. Enfin, partie dans l'infini. Voilà. C'est bien, c'est une façon jolie de raconter le départ de sa maman, hein, je trouve. Il y a un petit côté sympa, je sais pas, c'est presque un hommage pour elle, je trouve. C'est beau, quoi. C'est beau. J'aurais pu l'écrire pour ma maman. Mais ouais. Alors... Monsieur François Eva, qui au final, c'est un prête-nom. Il s'appelle Ménard. Jean-Pierre Ménard, voilà. Alias François Eva. Je n'ai jamais su pourquoi il avait voulu changer de nom pour écrire ses poèmes. Et alors il a écrit, bon, pour moi, un très beau poème. J'ai presque lu en entier, mais pas tout à fait, parce que je n'ai pas toujours le temps de lire tous les poèmes que je vais vous lire après. Je lis surtout déjà le titre. Si le titre m'inspire, je l'emmène pour vous le présenter à vous. « Toi, mon frère, l'étranger. Ils sont de chair et de sang comme nous. Ils mangent comme nous, comme nous. Ils aiment leurs enfants, leurs familles, leurs amis. Ils ont un cœur, une âme. Ils rient, pleurent, souffrent comme nous. La maladie les frappe, la mort les emporte comme nous. Ouais, comme nous. Parce qu'ils sont hommes, gitans, manouches, arabes, blacks. Ou qu'ils ont les yeux bridés, leur serait scellé, voleurs, fainéants, pire. Sans doute, pour les gens blancs, bien pensants, ils sont traqués, emprisonnés, chassés, comme du gibier humain, pas de pitié pour l'étranger. Certains fuient leur pays, ravagés par la guerre, la corruption, la famine, le chômage. Ils vont là où ils croient bâtir un avenir, se reconstruire en paix, dans un Eldorado, imaginaire où règne aussi la misère. Celles qu'organisent les puissants de ce monde, qui ont voulu leur perte, mais aussi le rejet raciste de ceux qui ont peur de perdre leurs petits privilèges bourgeois. C'est très d'actualité, ça. Heureusement, il y a ceux qui ont du cœur. Pas les plus riches, ceux qui connaissent les fins de mois difficiles, mais qui partagent le peu qu'ils ont. La solidarité ne se décrète pas. Elle est ou elle n'est pas. Elle ne passe pas où elle... où j'étais, où j'étais. Ouais, il a mis en abrégé, il a mis un J et un T. Donc je pense que ça ne passe pas vous jeter. Elle est humble, désintéressée, si belle. Ils ne voient en ceux qu'on appelle étrangers parce qu'ils ont peur que de simples hommes, femmes et enfants, qui ont tout perdu. Alors ils les aident, comme ils aident les pauvres exclus du système de leur pays. Gloire soit rendue à leur abnégation, courage, efficacité, spontanéité. Envers toi, mon frère, l'étranger. Et alors moi, je me suis forgé une doctrine. Un étranger, c'est un ami que tu ne connais pas encore. Voilà, c'est-à-dire que le jour où tu vas le connaître, cet étranger, ça sera un ami. Voilà. Et moi, en effet, j'ai beaucoup d'étrangers autour de moi. Bon, d'abord parce que j'ai beaucoup voyagé dans tous ces pays-là. Et pour moi, un étranger, par exemple, je vois un noir dans la rue, s'il me regarde, ben, je vais lui dire bonjour. Vous voyez ? Je ne vais pas tourner la tête ou lui faire les mauvais yeux. Hein, voilà. C'est comme ça qu'il faut être. Et à chaque fois que je rentre dans un endroit public ou même privé, et je dis bonjour à tout le monde, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune. Ouais. C'est la politesse aussi, ça. C'est la politesse qu'on nous a enseignée quand on était petit. Voilà. Là-dessus, dis donc, Jacqueline. Donc la foutie, là. Tu me le fais ou tu me le fais pas ? Je te l'ai déjà posé la question, hein. Tu me dis que t'as plus de cerises ? Que tous les oiseaux les ont bouffées ? Oh, les salauds ! Oh, ils pouvaient pas nous en garder un peu, quelques-uns ? Quelques-unes ? Oh. La prochaine fois, tu fais pousser un cerisier, à l'intérieur, dans une serre. Et là, ils peuvent pas y aller, les moineaux, toi. Hein ? Si tu veux, je te la construirai, ta serre. Ouais. Et puis on mettra un lit dedans, parce que c'est agréable, tu sais, hein, dormir dans une serre. Allez, je vous aime toutes, tous, et même ceux qui sont pas beaux.